Bon, on va prendre la suite de cette intervention magistrale de Dominique Pasquier. Bonjour, Daniel Asper, je travaille au Centre Ressources Illettrisme Auvergne. Je suis accompagnée de mon collègue Stéphane Gardet, qui pourra aussi se présenter par la suite. On vous laisse vous installer, rejoindre vos places. Voilà, donc nous travaillons dans une association, une structure qui s'appelle CRI, Centre Ressources Illettrisme. Vous savez qu'en France, le terme illettrisme est celui qu'on utilise le plus couramment, mais on est aussi un centre de lutte contre l'analphabétisme. Les CRI en France, on est une trentaine à peu près, répartis sur le territoire national. Dans un réseau de professionnels, on essaie de travailler ensemble pour assurer des missions d'intérêt général autour de l'information, la documentation et les ressources, la sensibilisation et la professionnalisation des acteurs de la formation et plus largement de l'insertion, le conseil, l'appui technique et l'ingénierie pédagogique. Notre rapport, je vais aller vite pour laisser du temps à Stéphane pour rentrer dans le vif du sujet. C'était juste pour resituer le contexte dans lequel on est. Notre rapport au numérique, au CRI Auvergne, et j'allais dire à l'informatique plutôt, il a commencé pour les plus anciens de l'équipe. On a découvert l'informatique au CRI en fait dans les années 90. On a appris et partagé cet apprentissage avec les formateurs, mais aussi en expérimentant auprès d'apprenants en formation. Ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'un CRI, un centre source, c'est un lieu où on intervient et où on accompagne, où on répond aux demandes du grand public, des décideurs et des formateurs, mais pas directement des apprenants. Nous, on n'est pas un lieu de formation, on est un lieu de formation de formateurs. Voilà. Donc on a commencé à apprendre l'informatique au CRI en expérimentant aussi auprès d'apprenants qui eux étaient en formation, et puis par la suite on a découvert Internet. On a créé et animé un camion multimédia qui s'appelait la Souris Verte en 2004, qui a sillonné les routes auvergnates en milieu rural, puisqu'on est essentiellement quatre départements du centre de la France. C'est vrai que je n'ai pas précisé, l'Auvergne, ce n'est plus une région, elle fait partie d'une grande région qui s'appelle Auvergne-Rhône-Alpes, mais c'est quatre départements autour de Clermont-Ferrand, voilà la ville principale. Donc ce camion multimédia a sillonné les routes dans le cadre du milieu rural, et puis après on est plus intervenu auprès des gens du voyage sur les aires d'accueil sur lesquelles ils étaient stationnés. Et puis troisièmement, nos pratiques de l'informatique à l'internet sont arrivées jusqu'à ce qu'on appelle maintenant des pratiques numériques. Nous échangeons aussi avec d'autres praticiens, notamment belges. Je salue Isabelle Chasse, ses collègues d'Alphatique, parce qu'on a déjà eu des échanges il y a déjà pas mal d'années ensemble, pour réfléchir comment on fait, qu'est-ce qu'on fait, comment on s'organise. On interroge aussi des experts sur la formation à distance, donc on essaie à la fois de s'informer, de pratiquer, et d'apprendre. Et même si nous ne menons pas donc d'action de formation en direct, tous ces temps d'expérimentation nous ont conduit à observer et accompagner des pratiques depuis longtemps. Et en fait, c'est à partir de ces observations et ces pratiques qu'on va enchaîner. Je vais laisser la place à Stéphane.
Merci, Manuel. Bonjour à vous toutes et tous. Stéphane Gardet, je suis donc chargé de projet au CRI Auvergne et référent numérique. Je vous propose donc une intervention en deux temps, illettrisme et numérique. Premier temps, de la fracture à l'inclusion, où je vous propose de partir de ce qui finalement fait lien avec la prise en compte par les politiques publiques en France de la problématique usage, et pas seulement machine, tuyau, de ce qu'on a nommé la fracture, et jusqu'à récemment, notamment depuis 2018, où il y a maintenant une politique publique autour de l'inclusion numérique. Voilà, premier volet autour un petit peu de cet axe-là. Et puis le second, que j'ai appelé l'urgence à l'autonomie, qui est plutôt la vision pédagogique et de terrain de ces problématiques-là, avec à la fois je vous présenterai les démarches de pédagogie ou d'andragogie, d'accompagnement des adultes, que l'on a modélisées et que nous ont enseigné les publics que nous accompagnons. Ou avons accompagné, et en partant à la fois de ce qui peut être l'urgence, une urgence numérique pour une personne ou un groupe de personnes, jusqu'à l'autonomie, guillemets, hein, gros guillemets à autonomie, puisqu'on le sait, il y a des personnes qui ne seront jamais autonomes, notamment avec le numérique. C'est souhaitable d'ailleurs, ça c'est une autre question. En tout cas, voilà, comment passer de l'urgence à l'autonomie, comment susciter des souhaits d'apprentissage, comment susciter l'envie de se former et de passer vers un peu plus d'autonomie numérique. Donc, premier temps, je vous propose d'abord de faire le lien avec ce que Daniel vous disait dans la présentation de ce qu'est un centre sociométrie, mais la mission numérique du CRI, donc oui, on a commencé, je suis arrivé il y a une quinzaine d'années au CRI avec ce camion, la souris verte, ce véhicule multimédia itinérant qui était dans le cadre du développement social sur l'accompagnement d'un schéma départemental d'accueil et d'habitat pour les gens du voyage, volet social, et il y avait donc ce camion qui existait comme accompagnement à travers le numérique et en milieu rural, d'où souris verte. Finalement, cette action, on l'a construit avec les publics chez qui on allait. Hein, le camion au milieu des caravanes n'était pas spécifiquement demandeur de cette action. On est venu leur proposer. Et c'est non seulement parce que nous étions chez eux, il fallait donc y être invité, mais aussi parce que c'est un public... de par le fait qu'on soit chez eux, mais aussi parce que avec une culture très forte et un clivage ressenti avec le monde sédentaire qui est prégnant, une méfiance des sédentaires qui est prégnante, et on ne pouvait pas venir chez eux avec une action pour eux. De fait, il nous fallait la construire avec eux. C'est d'ailleurs ce qu'on a proposé. Et c'est finalement, encore aujourd'hui, moi, ce que j'ai retiré, ce que nous avons pu retirer de cette mise en œuvre d'action avec les publics, ça me nourrit encore dans ma pratique. Et la mission numérique du CRI telle qu'elle est aujourd'hui, finalement, trois grands axes. Le premier axe, tel que vous voyez ici, donc qui sont le propre aussi d'un centre ressources, de faire de la veille et de la diffusion de ressources, et donc là, des outils numériques, principalement un Pearltrees, que vous avez les liens. Je précise, petite parenthèse, ce prédit, on donnera donc à lire et écrire Bruxelles, et il est sous licence Creative Commons, le partage est non seulement autorisé, mais vivement encouragé, licence libre, seule condition, on vous propose de citer la source, de ne pas faire de commerce avec, et de le partager dans les mêmes conditions. En abuser, en user, le diffuser, il n'y a aucun souci, c'est encouragé. Voilà, ces supports qui nous permettent d'agréger des outils dans le cadre de la veille que nous faisons au CRI. Des outils, alors deux entrées, une sur les compétences numériques de base et l'autre sur tout ce qui concerne les savoirs de base et l'accès à la langue. Avec, donc classé par thématique, plus de 2000 outils référencés qui sont à la fois pour les publics et aussi pour ceux qui les accompagnent. Et puis un deuxième axe à cette mission numérique, qui est l'axe formation, au départ formation de formateurs, et puis ça s'est développé maintenant autour de formation d'acteurs, au-delà de la formation pour adultes, mais conseillers insertion, emploi, travailleurs sociaux aussi, comment accompagner les publics éloignés de l'écrit dans un contexte de dématérialisation, hein, par exemple, tous les services sociaux, que ça puisse être autour de l'accompagnement familial, etc., les allocations, Pôle emploi, etc. Et puis, des expérimentations où nous conduisons là, si comme le disait Daniel, nous ne conduisons pas d'actions de formation sur le long terme, par contre, on pilote ou on accompagne des actions d'expérimentation, et là, sur des volets à la fois de diagnostic, d'ingénierie, mais aussi d'accompagnement des pratiques, où on fait nous-mêmes, on accompagne le public pour accompagner ceux qui les accompagnent ou vont les accompagner. Voilà, je pourrais revenir dans des exemples de terrain sur ce point-là. Sans plus attendre, donc de la fracture à l'inclusion, illettrisme numérique, électronisme sont des termes qui sont revenus sur le devant de la scène en France, en tout cas l'an dernier, je vais y revenir. Électronisme, c'est un terme qui est apparu fin 90, début 2000, et qui a été finalement assez peu utilisé. Et en 2016, l'Assemblée nationale en France a légiféré en disant on n'utilisera plus le terme d'électronisme puisqu'il peut prêter à confusion et on peut penser que c'est le pendant technique de l'illettrisme. Or, voilà, à partir de maintenant, on va parler d'illettrisme numérique. La même année, la lutte contre l'illettrisme numérique a été reconnue dans le Code du travail. Et puis, fin 2017, et au cours de l'année 2018, le secrétariat d'État au numérique en France a, notamment pour la prise en compte de la problématique usage numérique et de l'accompagnement des usages, le terme inclusion numérique est apparu. On en a parlé précédemment, merci Dominique pour l'éclairage que tu as pu nous apporter. Et le fait que, voilà, la fracture, on le voit bien, c'est pas aussi simple que inclus-exclu, et qu'on peut avoir des pratiques même restreintes ou modestes, même très modestes, mais avoir des pratiques numériques tout en étant en très grande difficulté avec les savoirs de base, et à contrario, être lecteur, être lettré, et avoir peu ou pas de pratiques numériques. Donc c'est pas aussi simple que dedans-dehors. En même temps, ça a permis que cela devienne un sujet et que ce soit pris en compte par les politiques publiques, qu'on ne parle plus seulement de la fibre ou des start-up, mais aussi qu'on parle des usages, et notamment de ceux qui sont les plus éloignés. Ça a explosé en 2016, lorsque Pôle emploi a dématérialisé et que du jour au lendemain, on s'est retrouvé à devoir prendre rendez-vous avec son conseiller par email. Voilà. À partir de ce moment-là, les problématiques d'usage, les travailleurs sociaux au bout de la chaîne se les sont pris de plein fouet, eux-mêmes éventuellement en difficulté dans les usages, dans leurs propres usages, on pourra y revenir, puisque n'y a-t-il pas deux publics, le grand public, mais aussi ceux qui les accompagnent. Alors, l'an dernier, décembre 2017, l'ex-secrétaire d'État au numérique, Mounir Mahbouli, partant du constat du baromètre du Crédoc, Dominique Pasquier vous a parlé précédemment, en s'appuyant sur ce chiffre-là, 13 millions de Français qui ne sont pas à l'aise avec le numérique. 100% des services publics sont ou vont être dématérialisés d'ici 2022, ce qui correspond à 1696 services. L'accès au droit, le maintien au droit, si vous n'êtes pas sur le numérique, si vous n'utilisez pas un minimum numérique, sera impossible. Ce constat, 13 millions de Français qui ne sont pas à l'aise avec le numérique, c'est sur ce chiffre que s'est fondé que s'appuyait le secrétaire d'État et ses équipes pour lancer ce qu'ils ont appelé la stratégie nationale pour un numérique inclusif avec un secrétariat d'État, trois pôles, les tuyaux, la fibre, les start-up et tout ce qui est de l'économie numérique, et puis un pôle société numérique, mission société numérique qui travaille autour des usages. Et pour la première fois, je dois dire que je salue leur travail vraiment. Et le fait que c'est du terrain pour revenir au terrain. C'est-à-dire que pour le plan qui a été présenté le 13 septembre dernier à Nantes, plan national pour numérique inclusif, est parti du terrain pour y revenir. C'est-à-dire qu'il y a eu une stratégie et des ateliers collectifs qui se sont tenus en ligne ou dans les territoires. Nous, on en a organisé à Clermont-Ferrand, on a permis à des acteurs de terrain, d'espaces publics numériques, de formateurs, travailleurs sociaux, conseillers insertion, mais aussi du public, quand on a pu recueillir leurs avis, contribuer pour que, par suite, il y ait un plan qui soit établi, mais en partant du constat du terrain. Et puis, Donc vous avez à chaque fois, hein, il y a des liens, vous les voyez ici, quand je cite une source, voilà, vous avez les liens, vous pouvez avoir le détail des études, des rapports, etc., vous pourrez aller plus loin si vous le souhaitez. Et puis, l'an dernier, donc, mai-juin, une étude qui a été commandée par le syndicat de la presse sociale au CSA, et qu'ils ont nommé « l'électronisme en France », avec ces chiffres, dont 23% des Français ne sont pas à l'aise avec le numérique. Si je zoome, voilà. 7% trouvent la navigation difficile. 4% ne vont pas assez souvent sur Internet pour se prononcer. 12% n'y vont jamais. Voilà, des chiffres en tout cas. 19% d'abandonnistes, dont 39% abandonnent sur les démarches administratives. Ce baromètre-là, pardon, cette étude-là, a finalement, je vous parlais d'électronisme et du fait que voilà, c'est un terme peu utilisé, et puis on avait parlé par la suite d'illettrisme numérique. Cette étude-là, et le contexte de inclusion numérique a permis finalement au terme électronisme de revenir sur le devant de la scène et de devenir véritablement un sujet avec ce plan qui est sorti donc en septembre dernier, plusieurs mesures clés dont trois principales qui nous intéressent par rapport au public cible dont on parle. Le premier, France Connect Aidant, qui est un outil, il y avait le 21, il y a deux jours à Paris un workshop, pour qu'avec les usagers et les aidants numériques, on puisse construire l'outil qui va servir à sécuriser les parcours de ceux qui font à la place d'eux. Quand j'accompagne M. Untel sur sa déclaration d'impôt, que je suis médiathécaire, travailleur social ou médiateur numérique, qu'est-ce qui sécurise l'un et l'autre ? Aujourd'hui, rien du tout. Il va y avoir donc un outil avec une habilitation, du coup une montée en compétences aussi des aidants, etc. Et quelque chose qui éthiquement, juridiquement, va pouvoir accompagner ceux qui font à la place d'eux et ceux qui se font aider. Un troisième qui s'appelle ABCPIX et qui est un parcours pour accompagner autour des compétences numériques de base, un parcours grand débutant, voilà, qui est en cours de développement. Et puis un autre qui s'appelle le pass numérique, le Premier ministre en France l'a officiellement lancé en février dernier. Le pass numérique, c'est je pourrais éventuellement vous y revenir plus tard, c'est un chéquier, ticket restaurant, et un chéquier qui sert à payer des services d'accompagnement à la médiation numérique. Merci. Et d'une part, modalité de financement des lieux de médiation numérique, qui, il faut être clair, qui galère à trouver des modèles de financement. Il y en a eu, je prends le Cantal, département très rural dans le centre de la France. Il y a quelques années, il y avait 200 espaces publics numériques dans le Cantal. Aujourd'hui, il y en a une quinzaine. Voilà, c'est sinistré, alors que, on le sait, on est tous là pour ça, hein, il n'y a aucun besoin d'accompagnement, c'est évident. Voilà, c'est donc à la fois un modèle de financement, mais aussi, bon, je pourrais rentrer plus tard dans le détail éventuellement, c'est aussi un outil structurant qui peut permettre aux prescripteurs d'avoir une visibilité sur les services que nécessitent les services en termes d'accompagnement aux compétences numériques que nécessite par exemple un demandeur d'emploi. Parmi les demandeurs d'emploi à qui je propose un financement d'accompagnement aux compétences numériques de base, quels sont les voilà, ça permet de récupérer des données sur les besoins qui d'ailleurs peuvent être intéressantes en termes sociologiques. Et nous pilotons dans le Puy-de-Dôme, avec le Créauvergne et le conseil départemental et des acteurs de médiation numérique, collectif des acteurs du Puy-de-Dôme, nous pilotons une expérimentation pour les publics en situation d'illettrisme, et les livrables seront mis en forme par l'agence numérique pour qu'ils puissent accompagner la montée en compétence des médiateurs numériques sur le national et aussi des autres centres ressources. Voilà, je passe un petit peu sur le sujet, enfin, je ne vais pas plus loin tout de suite, et puis je voudrais m'attarder un peu plus, par contre, sur le deuxième volet, je disais, après de la fracture à l'inclusion, parler de l'urgence, voilà, de cette tension entre l'urgence et l'autonomie, et aller là un peu plus sur le terrain. Vers une littératie numérique partagée, et cette notion de capacitation. Alors, tu faisais référence aussi à la fois dans tes propos et les travaux, Dominique, que tu as conduits, et à les, référence aussi à l'étude Capacity, au fait que le numérique peut être capacitant, pour autant qu'on ait quelques compétences et qu'on puisse s'en servir, ou pourrait être capacitant. Et c'est dans ce sens que voilà, je vais d'abord interroger, pour qu'on sache bien les uns les autres de quoi on parle, le concept de littératie numérique, qui moi m'a éclairé dans ma pratique. On parle d'illettrisme, hein, et alors je ne sais pas d'où ici, mais en tout cas en France on est très porté sur la négative, hein, l'illettrisme, décrochage scolaire, voilà, nos amis canadiens parlent de persévérance scolaire. Bon, c'est une autre façon de voir la même problématique. En tout cas, littératie numérique plutôt que illettrisme, la littératie numérique plutôt que ce qui manque nous permet de nous donner des perspectives, en tout cas peut-être ce vers quoi on doit pouvoir collectivement se rendre. Une carte mentale que vous, là aussi, hein, licence Creative Commons, j'ai aucun mérite par rapport à ces travaux, hein, c'est, voilà, c'est, la source à la base c'était EduSchool, et c'est tiré de, en fait j'ai fait une carte mentale pour schématiser des travaux qui sont faits par le centre Abilomédia, d'après les travaux du centre canadien d'éducation aux médias et de littératie numérique Abilomédia, et les travaux d'Hélène Deward et Michael Hochman. Voilà, donc tout d'abord la littératie. Voilà, vous êtes, je suppose, tous au clair là-dessus, mais le terme apparu, voilà, rapport de l'OCDE en 2000, avec une définition de la littératie qui nous dit aptitude à comprendre et à utiliser une information écrite dans la vie courante, à la maison, au travail, dans la collectivité, en vue d'atteindre des buts personnels et d'étendre ses connaissances et ses capacités. Alors, la littératie numérique, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est... alors, plutôt que ce que c'est, déjà, qu'est-ce que ça n'est pas ? Est-ce que ça n'est pas la catégorie, une catégorie technique de la littératie ? Ça n'est pas non plus la description d'un niveau fonctionnel minimal de compétences technologiques. Et ça n'est pas non plus seulement le changement de support, le passage de l'écrit papier à l'écrit écran. C'est pas aussi simple que ça. C'est plutôt une vaste capacité qui consiste à participer à une société qui utilise le numérique au travail, dans les administrations, en éducation, dans les domaines culturels, les espaces civiques, dans les foyers, dans les loisirs, bref, tout au long et tout au large de la vie, et qui est traversée par trois compétences indissociées, imbriquées l'une dans l'autre, mais trois compétences malgré tout distinctes, qui sont informatique, médiatique et informationnelle. Alors, la première, informatique, c'est la compétence technique, celle d'utiliser la technique. Effectivement, si on ne sait pas allumer un ordinateur, ça va être compliqué pour la suite. Compétence médiatique, c'est celle de comprendre le numérique, et donc de développer l'esprit critique. Compétence informationnelle, c'est la compétence de pouvoir être acteur du numérique, agir. C'est savoir recevoir un mail, c'est savoir aussi en envoyer un, ajouter une pièce jointe, etc. Produire des contenus, communiquer. Et tout ça est imbriqué. Développer l'esprit critique, ce n'est pas juste savoir que ceci est un hoax, un canular, une fausse info, etc. Mais c'est aussi savoir, comme j'ai pu l'échanger en école de travailleurs sociaux, que... En école de travail social, quand je fais une recherche, je prends toujours les premiers résultats. Vous utilisez quoi comme moteur de recherche? Si je fais le tour de la salle, qui utilise Google? Juste comme ça. Voilà. Qui utilise autre chose que Google? Franchement, la France devrait s'inspirer de vous. Je vois qu'il y a une culture autre que la suprématie des GAFAM. La taxe GAFA qui oublie le M, parce que à part Google, Amazon, Facebook, Apple, il y a aussi Microsoft, hein. Et puis tout le pendant du côté oriental avec BATX, voilà, Baidu, etc. Il ne faut pas les oublier non plus. Mais voilà, la culture numérique, développer sa propre culture numérique et donc faire en sorte que quand on fait une recherche pour trouver un prix moins cher, Si on utilise Google et que les premiers résultats sont des annonces et que d'ailleurs on bosse gratos hein, pour Google, nous sommes les petites mains de Google et que le profilage qu'ils font de nous et de nos recherches, par contre, lui rapporte énormément à Google et aux identiques. Ben c'est aussi ça, développer sa propre culture numérique, c'est savoir que je peux utiliser l'ILO et que ma recherche peut avoir du pouvoir, peut avoir un impact écologique, peut être associé à du militantisme, etc. Ben, c'est aussi tout ça, que je sois le public qui développe ses compétences numériques de base, mais aussi ceux qui les accompagnent. Et puis, voilà, c'est aussi pour ça qu'on parle de translittératie ou littératie multimodale, parce que tout ça est imbriqué. Je termine en parlant donc de l'objectif pour tous les citoyens, c'est donc d'acquérir une véritable culture numérique pour être en levier d'inclusion à la fois sociale, mais aussi professionnelle, et pour les deux publics, ceux que nous accompagnons et nous-mêmes. Je reviens donc... À notre fil. Dès lors, comment répondre à l'urgence et comment accompagner les publics vers l'autonomie? Les publics que nous accompagnons ou que nous allons accompagner, les publics les plus éloignés de l'écrit, éventuellement des compétences numériques de base, en difficulté avec l'écrit et qui peuvent l'être avec le numérique, que la dématérialisation des services publics vient impacter de plein fouet, ce public-là, vous le savez, peut avoir de très très grandes réticences à s'inscrire dans de la formation. Lorsque les personnes sont déjà dans des ateliers de formation au savoir de base, à la langue française, etc., il y a déjà des préalables que les formateurs vous avez accompagnés et qui peuvent permettre à ces publics de s'inscrire plus facilement dans des ateliers qui accompagnent les compétences numériques de base. Par contre, quand ces publics-là sont suivis par, quand ils ont la chance d'avoir passé les barrières numériques pour accéder à un rendez-vous Pôle emploi et qu'ils rencontrent leur conseiller qui leur dit « Ah oui, il faut vous former sur les compétences numériques de base », oui, c'est pas parce qu'ils sont informés qu'il y ait des dispositifs d'accompagnement, qu'ils y vont parce qu'on a peur, parce que c'est pas adapté à leur problématique, parce que c'est beaucoup de freins avant que ces publics viennent. Pourtant, ces publics-là, les travailleurs sociaux, les conseillers d'insertion, les services civiques, qui, parce que chez nous en France, je ne sais pas en Belgique ici, mais du coup, les premiers qui accompagnent dans la caisse d'allocation familiale, dans Pôle emploi, les premiers qui reçoivent l'accueil surflux avec des files impressionnantes des personnes qui sont bloquées numériquement et qui donc doivent déclarer trimestriellement leur revenu pour avoir le RSA, doivent faire tout sur numérique et ne savent pas, ne peuvent pas, etc., viennent donc dans les points d'accueil d'urgence où il y a, le plus souvent, et leur travail est admirable, mais que fait-on pour pérenniser, pour que ça devienne un métier, les services civiques qui sont là 6 mois, qui sont peu, voire pas formés, et c'est pas qu'ils n'aient pas de compétences, mais on confie, et Pierre Mazet, notre chercheur en France, nous dit ceci: est-il raisonnable de confier quelque chose d'aussi sérieux que l'accès au droit à des personnes qui sont eux-mêmes précaires et non ou peu formées? Bref, ces publics-là peuvent être dans une urgence sociale, une urgence numérique, voire une urgence sociale et numérique, mais ne pas avoir sincèrement envie d'aller tout de suite sur de l'autonomie, peuvent en avoir peur, etc. Alors, ce que je vous propose là, c'est de survoler... je vois que le schéma fait peur, on va aussi aller sur le terrain. Voilà, c'est un petit peu une modélisation de la démarche que je vous propose de parcourir, démarche que l'on explore ou que l'on a explorée sur le terrain avec les publics. C'est numérique, public éloigné et andragogie, accompagnement des adultes. Ces publics-là avant même de parler de compétences numériques de base, de formation, et donc de parler du long terme, quoi. On ne peut pas leur proposer des ateliers, on ne peut pas leur proposer des ateliers de formation ou d'accompagnement s'il n'y a pas des préalables qui les ont rassurés. Je vais du coup abandonner le schéma et je remercie les personnes qui ont fait la grimace parce que du coup ça me permet de partir un peu sur le terrain. Et je vais vous parler de deux groupes de personnes. Une des expérimentations que l'on pilotait l'an dernier, qui s'appelait Actif Numérique, qui était financée par le ministère du Travail, compétences numériques de base et insertion ou emploi, et donc des personnes en recherche d'emploi et d'autres dans l'emploi. Tous, le but était de monter des ateliers aux compétences numériques de base pour accompagner des publics en recherche d'emploi qui avaient peu ou pas de compétences numériques, d'autres qui étaient dans l'emploi, qui n'en avaient peu ou pas, mais eux pour le conserver leur emploi. On a donc accompagné deux groupes. Un groupe qui était déjà suivi par un organisme de formation. Ce premier groupe-là, donc avec... Déjà, ils avaient passé une barrière, hein, ils étaient venus dans un atelier. Mais dans les 12 personnes, 7 ont accepté de venir dans un premier atelier autour des compétences numériques de base. Il se trouve qu'on accompagnait aussi la formatrice, qui elle-même avait du mal à inclure du numérique dans ses pratiques. Donc il y avait ce... Première rencontre, j'étais avec 7 personnes, groupe assez hétérogène, analphabétisme, français langue étrangère et lettrisme. 7 personnes avec ces problématiques-là. Et puis, je mets les tables en rond... pour être en coude à coude, et puis on était hébergé dans une médiathèque. Et puis, on se sert un café, un thé, et puis on commence à échanger. Et donc, je lance les échanges, je vois une dame avec un smartphone sur la table, et donc je l'interroge, je l'invite à me parler de son équipement et de ses usages. Vous avez un smartphone ? Vous avez un Internet dessus ? Vous allez sur Internet ? Et puis, comme ça, on commence à échanger. Et donc, on démarre par une discussion informelle avec les 7 personnes. Et je leur demande aussi, en fait, vous êtes venus volontairement, vous avez, moi je pensais que les personnes étaient venues de leur plein gré, et puis en fait, une me dit, ah non, moi en fait, j'ai pas du tout envie d'être là. On m'y a obligé. Je dis, ben, en tout cas, je vous remercie d'être là quand même. On a 2 heures à passer ensemble. Écoutez, je vous propose au moins d'essayer, et puis on verra. En tout cas, si vous souhaitez partir, il n'y a aucun problème. Et puis, une autre personne qui me dit, ben, moi non plus, en fait, je suis là, je veux bien rester, mais moi, j'aime pas le numérique. J'ai horreur de ça. Et puis, elle me dit ça en regardant l'ordinateur que j'avais devant moi, l'ordinateur fermé, mais qui était devant moi. Et en fait, c'est plus à un nom d'ordinateur qu'elle s'adressait qu'à moi. Elle m'a dit, moi le numérique, j'ai horreur de ça, mais je veux bien essayer de rester. Et puis, je poursuis avec la dame qui avait son smartphone, et une autre était là, une dame d'origine d'Afrique du Nord, et puis qui était avec sa tablette, et qui me dit, ben, chez moi, en fait... on a une tablette et c'est mon petit garçon qui l'utilise et moi je ne sais pas faire en fait, j'aimerais beaucoup apprendre à l'utiliser. Et on fait le tour, un autre homme qui lui devait l'utiliser dans son travail et était en situation de maîtrise, et puis des situations assez variées. Un autre qui lui utilisait le moteur de recherche, le bon coin, voilà, qui avait de la pratique. Pratique restreinte, très ciblée, mais qui avait de la pratique, qui n'avait pas rien. Et là, je commence à partir, vous voyez, sur ce que j'ai appelé ici présentation de compétences, à travers l'observation et un échange informel, et deux groupes. Je commence à être de façon, vous voyez, c'est pas un rendez-vous en face à face dans un bureau, là, c'est autour d'un café. Je commence, moi, à me renseigner sur leurs équipements,
leurs pratiques, leurs usages et la relation qu'ils ont au numérique ou pas. Et ça, ça commence à m'en renseigner. Et déjà, je commence à aller sur ce thème-là, la confiance en soi. Ah bon, vous me dites que vous ne faites pas grand-chose avec votre smartphone, mais en fait, vous avez déjà un smartphone, vous savez l'allumer.
Ben oui.
Ah oui, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Et c'est une compétence. Vous avez un email ? Oui, mais je ne m'en rappelle pas. Aujourd'hui, quelqu'un, enfin, je dis en vérité, tautologie, mais quelqu'un qui n'a pas d'email ou qui ne s'en rappelle pas, c'est comme si je vous demandais votre adresse postale et vous me disiez la même chose. Administrativement parlant, vous êtes inexistant ou vous ne savez pas. Ça n'est pas rien. Et cette personne, c'est celle qui vient de me dire « Je refuse d'être là, on m'y a obligé. » Du coup, je commence à percevoir qu'elle n'a aucune envie d'y aller. Il s'avère qu'elle est en situation d'illettrisme et qu'elle a quelques pratiques, quelques compétences que je commence à percevoir. Aucune envie d'être là. Par contre, je commence moi, à entrevoir que l'email, elle en a un, mais elle ne sait plus comment y aller et ne se rappelle pas son adresse mail. Du coup, moi, ça commence à me renseigner. Et à travers l'échange, je commence aussi à valoriser les compétences qui sont les leurs. Un tel, celle-ci, une telle, cela, etc. Et ce qui commence en fait à... Je commence à le sentir dans les échanges. Les échanges sont un peu plus conviviales. Et puis, je vois les gens se redresser un peu. Et avec, malgré tout, cette personne qui me parle de ses mails, qui reste quand même assez fermée. Donc, je sens que c'est, voilà, c'est sur un fil. Hein. Et puis, au fur et à mesure de l'échange, ça a duré une heure, et au bout de l'heure, je demande à cette personne, je commence à interroger aussi les besoins, les envies. En fait, vous êtes là, vous avez envie ou pas envie, mais qu'est-ce que vous aimeriez faire ? Et puis dans votre vie, vous aimez quoi ? Qu'est-ce que dans vos pratiques, vous allez sur Internet, vous faites le bon coin ? Qu'est-ce que vous vendez ? Qu'est-ce que vous cherchez ? Et je commence voilà, à m'interroger aux personnes qui sont derrière, à leur centre d'intérêt, et là, à percevoir, là aussi, des fils qui sont autant de portes d'entrée, pour moi, sur des entrées non numériques, hein, mais c'est pour l'une, et cette dame qui va me dire, ben, moi, ce que j'aime dans la vie, en fait, c'est le crochet. Et cette dame est l'autre personne qui me dit, moi, j'ai pas envie d'être là, mais je veux bien rester, mais je ne supporte pas ces machines. Il me dit, par contre, moi, dans la vie, en fait, je suis passionné de crochet. Et là, j'ouvre mon ordinateur, je me mets à côté d'elle, et avec le groupe, hein, mes relations individuelles au sein du groupe, et je lui dis, qu'est-ce que vous aimeriez faire au crochet que vous ne savez pas faire ? Elle me dit, ah, non, j'aime beaucoup la nature, et une rose au crochet, j'adorerais ça, une rose au crochet. Et là, j'ouvre un moteur de recherche, pas Google. J'ouvre un moteur de recherche et je tape tuto rose crochet. Je vais sur les vidéos et j'ouvre, je regarde un petit peu et je ne l'ai pas fait avant, hein, je l'ai fait en direct avec elle. Et là, parce que je suis aux côtés d'elle, je ne suis pas celui qui sait, mais je suis celui qui vient apprendre avec elle aussi.
Ça, tu ne sais pas faire du crochet, Stéphane ?
Non, je ne sais pas faire du crochet. Et justement, tu fais bien de me dire ça, parce que je lui ai dit, ben, vous savez en faire, ben moi, pas du tout, et ça m'intéresse. Parce que je vais aussi apprendre avec vous. Et donc, je me mets à côté d'elle, je fais la recherche, et je lui dis en même temps ce que je fais, j'ouvre le navigateur, je vais taper, ah ben on va regarder, tuto, rose crochet, je fais en verbalisant, en oralisant, et puis là, elle me regarde, j'ouvre la vidéo, elle me regarde, et là, je commence à avoir de l'intérêt dans son regard. Pas sur le numérique, mais sur le fait qu'elle trouve réponse à un besoin. Et du coup, on commence à entrevoir une passerelle entre elle et le numérique. Et ça, c'est à la fois apporter de la confiance en soi sur les compétences qu'on peut avoir et qu'on n'imagine même pas. Ben oui, moi, la première fois que j'ai acheté un ordinateur, j'ai tourné autour pendant un quart d'heure pour me dire « Ah mince, mais pour l'allumer, en fait, il y avait une touche du clavier qu'il fallait, sur laquelle il fallait appuyer. » On a tous commencé par une galère, même, je vais vous dire, ça continuera toute notre vie. Nous ne pourrons qu'apprendre.
Je peux dire un jour je sais lire, je peux aussi l'oublier, hein, c'est aussi une des causes de l'illettrisme. Pour autant, apprendre à apprendre, c'est essentiel, et le numérique, nous ne pouvons que l'apprendre. Donc, de fait, dédramatisons ça, et acceptons-le, ça va changer sans arrêt. On doit sans arrêt se réadapter. Et cette personne, du coup, on commence, voilà, à la fois à valoriser ce qu'elle sait, et donc à lui donner droit de citer, et pas être seulement celle ou celui qui ne sait pas, mais je suis là et j'ai des compétences, je suis dans le groupe. Et puis aussi parce que dans le groupe, et je reviens à cette idée individuelle au sein du groupe, la compétence que tu as peut bénéficier au groupe. Voilà. Et que si j'avais fait un entretien individuel, la personne, pas d'outils, pas d'usage ou peu, ouais, pour valoriser la confiance à soi, c'est complexe. Par contre, si je suis dans le groupe, il y a des compétences que nous pouvons avoir collectivement et que nous n'avons pas individuellement. Et ça, ça va être important pour la suite et le pair à pair que l'on va pouvoir favoriser dans la façon dont on va mettre en œuvre l'accompagnement. Du coup, le numérique nous y aide, là aussi. Et c'est là qu'il devient à la fois un objet, mais aussi un vecteur. Et qu'on peut apprendre le numérique avec le numérique, mais on peut aussi apprendre plein d'autres choses et se mettre dans une démarche d'apprendre à apprendre, tout au long et tout au large de la vie, et j'irai pendant l'atelier, et même surtout en dehors de l'atelier. Parce que le but, c'est pas que je les rende dépendants à moi, c'est que mon aide, ben, qu'ils s'en passent. Donc, évaluation du besoin, au mieux, si la personne a un besoin évoqué, ben moi, il faut que j'apprenne à me servir d'un email. Besoin exprimé ou un besoin supposé. La personne qui ne savait pas quel était son email, alors je suppose que ça serait important quand même pour elle, qu'elle apprenne à le connaître et puis aussi à s'en servir. Alors, le véhicule dans tout ça, pour dynamiser l'inscription dans un continuum, et passer de la réponse à l'urgence à un accompagnement sur le long terme, ben plutôt, voilà, à la fois repérer le besoin, susciter de l'envie, hein, la rose, tout en apportant un contexte de confiance. Et là, le référentiel, moi, c'est du coup, suite à cette heure d'entretien, j'ai en tête le référentiel, j'ai mis un lien vers le référentiel Cléa et le domaine 3, qui, donc, ceux qui savent pas, je fais juste le focus, domaine 3 du référentiel Cléa, domaine numérique, qui est les bases, des compétences numériques de base, je dirais, avec voilà, la machine, clic droit, clic gauche, etc. L'essentiel en termes techniques, la bureautique très basique, la recherche internet essentielle et la communication email. Et la recherche internet, je vais l'utiliser en transversalité de toutes les autres. Dès qu'on le peut, pour que les gens puissent l'utiliser en permanence dans et hors de l'atelier. Et donc je passe au filtre, au tamis, à la loupe du référentiel, tout ce qui est sorti des échanges, et là je vais commencer à pouvoir tracer des pistes pédagogiques individualisées, mais dans une dynamique de groupe. Et puis le second temps de ce premier atelier, je propose de déconstruire pour pouvoir commencer à re pour certains et construire pour d'autres. Et donc je mets une tour sur la table, une unité centrale, je sors un tournevis, et là je tends ce tournevis à une des deux personnes qui m'avait témoigné le plus grand rejet, et je prends la plus éloignée des deux, celle qui m'a dit « non, on y est obligé », puis voilà. Du coup je lui tends le tournevis et je lui dis « c'est le moment de vous faire plaisir, on va le décortiquer, on va le désosser ». Et donc là je perçois un sourire malin qui prend le tournevis et qui me dit « vraiment je peux y aller ?» Je dis « faites-vous plaisir, allez-y, on le désosse ». Et donc, elle commence à désosser l'ordinateur, et puis donc là, c'est un brouhaha, etc. Et puis, elle ouvre, donc, et les autres, « Ah oui, mais regarde, il y a un vis là. » Voilà, on commence collectivement à démonter ça. Et puis, moi, je commence à les interroger, à dire « Mais est-ce qu'on démonte, là ?» Voilà, on commence à prendre les pièces, à les mettre sur la table, etc. Et puis, on se retrouve avec la photo centrale, et puis... alors, c'est un montage que j'ai refait après, mais c'est ce principe-là, on met, voilà... un ordinateur démonté
Ça a l'air de rien. Ça nous fait sourire, mais je peux vous assurer que pour ces personnes qui regardent l'ordinateur en lui accordant une toute puissance et en le mettant, vous savez, comme la différence, voilà, le rapport au savoir et celui est-ce que ces publics vont facilement dans une médiathèque, une bibliothèque ? Ben non. Le savoir, c'est un musée et c'est pas pour moi. C'est des statues sur un piédestal, voilà, c'est inaccessible. Alors que, en fait, là, on leur présente le savoir, le rapport au savoir non plus comme un musée qu'on visite, mais comme un chantier. Voilà. Et un chantier, j'ai aussi le bleu de travail. Nous avons un bleu de travail que nous partageons, et collectivement, on co-construit ça. On déconstruit pour reconstruire. Et puis, une fois que tout est mis sur la table, je leur demande, mais vous avez déjà entendu parler d'un disque dur ?
Ah oui.
Et moi, laquelle de ces pièces ? Et du coup, on recherche. Alors là, on commence à reconstruire. Et ah ben, c'est ça. Et ça, c'est. Il y a USB dessus, là. C'est une clé USB. Non, c'est un port USB. Et là, on commence à aborder du lexique, etc. Voilà. Et petit à petit, on reconstruit la machine. Et on se quitte au bout d'une heure. Voilà. Les deux heures sont passées. Et on s'est quitté en ayant bien rigolé autour d'un dinosaure numérique. En tout cas, on s'est quittés tous en se disant, bon, les deux personnes, je leur dis, bon, est-ce que vous acceptez de ne pas avoir envie une séance de plus la prochaine fois ? Et ils me disent, oui, bon, non, je veux bien revenir un peu. Et puis en fait, ça a duré comme ça 5 séances avec un autre groupe. Et elles sont restées sur l'atelier. Et 7 personnes sont restées. Et une de ces deux personnes, la dame au crochet, voilà, c'était il y a un an et demi, et cette dame-là, on l'a appris il y a 15 jours, là, a obtenu le certificat CLIA. Voilà. Elle a obtenu la certification avec notamment les 4 domaines numériques. Mais il a fallu la rassurer, lui apporter confiance, hein, pour qu'elle puisse non seulement prendre conscience de ses propres compétences, mais aussi être dans un contexte qui favorise son inscription sur le long terme. Autre groupe, je vous disais deux groupes, le deuxième, Actipol, dans un territoire zéro chômeur, sinistré en termes d'emploi, territoire zéro chômeur, une expérimentation, avec une entreprise montée et dont le principe est d'embaucher des chômeurs de très très longue durée. Des domaines de cette entreprise, garage, espace vert, peinture en bâtiment, etc. Des métiers assez manuels et des problématiques autour de la langue, des savoirs de base très, 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 très présentes. Information collective de ces publics. Alors, précédemment, j'avais rencontré l'équipe de direction et le président. On devait susciter l'envie de se former auprès de ce public. Et les inviter à venir dans un atelier, alors je parle d'atelier, je vais y revenir, et pas de formation, et ils nous disent, ben, on va imaginer une réunion collective pour qu'après votre atelier, vous puissiez le faire. J'arrive le jour de l'information collective, et là, je vois un grand gaillard de 2m10, sans dire que je l'ai peut-être, enfin, il grandit à chaque fois que je le présente, mais voilà, qui m'accueille et qui me regarde de haut en me disant... c'est toi qui viens nous bourrer de mou. Bon. J'arrive dans cette salle et là, je vois une grande table avec des chaises. Voilà, et au bout de la table, super chaise, belle table en bois. Et il me dit, voilà, c'est là-bas que tu es. Et je dis, non, ça ne va pas bien. Là, du coup, je m'inscris au milieu d'eux. Et les gens commencent à s'asseoir. 35 salariés, 35 obligés à être présents, au moins 5 minutes, les 5 premières pour la réunion collective, donc ça démarre bien. Et puis donc l'équipe de direction arrive et on me présente, on dit, voici le monsieur qui vient vous former au numérique. Je prends la parole, je dis, excusez-moi, en fait, non, je ne suis pas la personne qui vient vous former au numérique, je viens vous proposer des ateliers. Et qu'est-ce qu'on va faire dans ces ateliers ? Eh bien, j'en sais rien du tout. Donc, les gens me regardent, l'équipe de direction se dit mais c'est pas ce qu'on avait dit. Et là, déjà spatialement, il était indispensable de déconstruire ça.
pour qu'ils se sentent, voilà, pour qu'on se sente ensemble et pas en face à face, donc en relation descendante. Il fallait que je sois avec eux et pas face à eux, et que je leur présente ce qui est notre démarche finalement. Et notre démarche, c'est pas de faire du numérique pour ceux qui en sont exclus, c'est de mettre en place des ateliers avec les publics et en apprenant nous-mêmes. Et je ne sais pas ce qui va se faire, alors j'en ai quand même quelques idées ou quelques pistes, mais du coup je regarde un de l'équipe de ceux qui m'avaient accueilli assez fraîchement et je lui dis, vous êtes du pôle garage, ben vous avez des compétences que je n'ai pas et que plein d'autres n'ont pas. Et que si vous me dites, ben voilà, je sais changer une bougie, votre savoir et vos compétences, elles pourraient bénéficier à plein d'autres. Et on peut utiliser Internet pour ça. On pourrait par exemple faire une petite capture vidéo, la mettre en ligne, et puis vous pourriez expliquer comment on change une bougie ou un cardan sur tel type de voiture. Ah oui, ben ça je sais faire. Eh bien, voilà, ben, vos compétences, ce que je vous propose, ce que je ne sais pas encore, c'est justement ce que vous savez faire. Et ce que je vous propose, c'est au moins un cadre dans lequel on va se rencontrer pour se découvrir. Et bien sûr, c'est un atelier autour du numérique. Mais plutôt que d'apprendre le numérique pour le numérique, je vous propose que vous appreniez à d'autres et que ce faisant, eh ben, pour mettre en ligne une vidéo, on va devoir créer un compte. Oui, on va devoir créer ou se rappeler d'une adresse mail et l'utiliser, etc. Et du coup, on a un apprentissage expérientiel comme ça. Je regarde l'heure et ça va être l'heure de conclure. Avec finalement un accompagnement qui est un compromis. C'est 35. Si je leur avais proposé tout de suite de la formation et du long terme avec « oui, je viens vous former sur les compétences numériques de base », j'aurais eu personne. Si, les 5 premières minutes. Et ces mêmes personnes, elles peuvent éventuellement solliciter une aide dans les points d'accueil d'urgence, etc. Mais cette urgence, si on ne la traite pas sur le long terme, on devient nous-mêmes créateurs de cette propre urgence, de notre propre urgence. Elle revient la même, de façon incessante. Alors l'idée, c'est pas d'accompagner, c'est pas ça. Évidemment de sortir de cet accompagnement d'urgence pour qu'il y ait le plus possible un aller vers l'autonomie. Mais c'est pas non plus que le long terme, parce que sinon ils ne viennent pas, ils ne s'y inscrivent pas. C'est finalement un équilibre complexe entre accepter leur urgence, mais en les invitant sur du long terme, c'est pas... Ou c'est et, mais surtout en s'en éloignant et en partant du côté des personnes, de ce qu'elles savent déjà faire et de ce qu'elles aiment, de ce qu'elles ont envie. J'utilisais le terme de capacitation. Les classes les plus aisées, les plus diplômées, etc., utilisent le plus le numérique pour apprendre, pour etc. On parlait ce matin des personnes qui apprennent, voilà, qui sont sans arrêt, les tutos, etc., qui donnent à voir ou pas d'ailleurs, mais qui la capacitation d'Internet, que ce soit en termes économiques d'ailleurs, hein, ou les startups ou autres, mais le fait que Internet peut être un extraordinaire moyen de capacitation, y compris pour les publics les plus éloignés. Et en tout cas, plutôt que de faire pour, ce que je vous propose, c'est donc bien sûr de faire avec, en impliquant, hein, les publics. Ça n'a rien de neuf, hein, les pédagogies actives, les démarches projets, etc., susciter l'adhésion, mais en inscrivant les publics comme étant acteurs du projet, et avec une démarche qui est plus celle de l'apprenance que de la formation. Je vous invite à aller voir les travaux, si vous ne connaissez pas, de Philippe Carré sur l'apprenance, et le fait que l'apprenant soit acteur de ses apprentissages, et le formateur ne soit plus un expert en savoir, mais un expert en apprenance. Et du coup, le modèle n'est plus, dans ce schéma-là, de mémoriser des savoirs pour hiérarchiser des connaissances, mais plutôt d'explorer des contenus, et avec les publics, pour par suite, par contre, notre rôle est essentiel pour étayer et structurer des connaissances. Parce que si Internet est une formidable océan de données ou d'informations, notre rôle n'en demeure pas moins essentiel pour structurer ces connaissances. Par contre, il nous faut nous aussi accepter de faire évoluer nos organisations et nos propres rôles en se décentrant un petit peu et en étant un peu plus dans le coude à coude pédagogique que dans le face à face. Je vous remercie. Je m'en excuse par avance, mais j'ai un train dans une heure et du coup je vais m'en aller comme un voleur. Mais je vais laisser le micro à Dominique et Daniel. Et on reste joignable sur les réseaux, par téléphone ou de visu. Merci à vous et l'Irecrée pour votre accueil et votre invitation. Et à bientôt, en vrai, physiquement et en vrai sur le numérique, sur le territoire numérique.